Bonjour mes très chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Médecine Douce, surtout en cette semaine. On a besoin d'énergie positive, on a besoin de partager, on a besoin de rire aussi. Et je suis ravie, et ça tombe à pic, qu'il soit présent parmi nous dans le studio ce matin. C'est Seymour Bruxelles. Bonjour Seymour, merci d'être là.
Bonjour, bonjour chers auditeurs.
Tu vas bien ?
Ça va, oui, bien, oui, je vais bien. C'est difficile de ne pas être touché par tous ces événements, par toutes ces vibrations ambiantes, mais au travers de ça, plus que jamais, je pense qu'il faut rester centré et continuer à aller bien dans un monde déséquilibré. C'était le titre d'un livre de Krishnamurti, « Comment vivre équilibré dans un monde déséquilibré ». Ben voilà, il va falloir s'y mettre.
Plus que jamais, je pense qu'il faut qu'on se mette à la lecture de cet ouvrage.
Oui.
Mais finalement, on en parlait là juste avant de prendre l'antenne, c'est l'énergie de vie qui doit nous guider là, plus que jamais actuellement. On doit se laisser complètement traverser par cette énergie qui nous met en vie, qui nous rend en vie.
Exactement. Redevenir des personnes, c'est-à-dire le mot latin, c'est personare, ça veut dire sonner à travers. Se laisser envahir par cette énergie de vie, de redevenir consciemment des intermédiaires de la vie. Et pour ça, il faut s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. Ce qui n'est pas facile lorsqu'on est stressé, stressé d'ailleurs qui veut dire fermé, serré, compressé, tendu. Alors c'est le contraire, évidemment, je rejoins ce que tu dis.
Un peu de souplesse finalement, et puis se laisser accueillir, on avait fait une émission sur... Voilà, laissons accueillir toutes ces émotions qui nous traversent. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée aussi de les contrer, mais une fois qu'on
surtout
les a accueillies, une fois qu'elles sont présentes et qu'on leur laisse aussi une place, et ben vous allez voir, de manière assez miraculeuse, elles se dissolvent petit à petit. Et pour laisser place de nouveau à l'envie d'aller de l'avant. Alors en tout cas, il y a des gens qui peuvent nous aider autour de nous. Il y a déjà une première chose que l'on peut faire, c'est les choix des informations, de ce qu'on met devant nos yeux, finalement de ce que l'on écoute. Je pense qu'on peut aussi se rebrancher sur des choses qui nous font rire, qui nous font du bien.
Ménage dans notre vie et créer notre environnement. C'est l'environnement qui détermine la fonction de la cellule. Et notre environnement, mais on peut le choisir aussi, on peut le déterminer. On n'est pas uniquement victime de notre environnement et c'est le moment de faire le ménage, justement, sur tout ce qui nous stresse, qui nous ferme, et aller dans le sens de l'ouverture. Et comme disait Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé.
C'est excellent pour la santé, même.
Voilà.
Et mon cher Seymour, alors aujourd'hui on présente ton nouveau spectacle, donc Carte Vitale, que tu joues avec Blandine Métayer au Petit Palais des Glaces tous les samedis.
Oui, à 18h.
Voilà, dirigé par Jean-Pierre Bigard,
c'est le frère
de Jean-Marie.
Oui, c'est le frère aîné de Jean-Marie qui dirige donc le théâtre.
Donc tous les samedis, c'est une pièce qui se joue depuis peu de temps, qui parle de santé.
Ah bah oui, carte vitale, elle est vitale la carte, si t'as pas la carte vitale t'es mort. Donc la vie, la vitalité, l'amour, on en parlait tout à l'heure, on va voir que dans cette pièce que le meilleur médicament c'est l'amour de toute façon. Et que cette énergie de vie, de reproduction, de continuité, c'est celle qui nous manque souvent et qui nous fait sombrer dans la maladie.
Donc toujours la trame de la santé finalement, on le rappelle dans ton parcours, bon les gens te connaissent déjà et tu es venu plusieurs fois sur cette antenne, tu es avant tout un comédien, un humoriste, mais finalement ce métier de la thérapie et de la santé t'a rattrapé, c'est quelque chose qui t'a passionné à un moment dans ton parcours, et donc aujourd'hui tu lis les deux, c'est ton deuxième spectacle, ou peut-être même plus, hein, mais
oula,
il me
oui.
semble à ma connaissance, deuxième spectacle sur la santé, c'est ce que
oui,
je voulais dire,
ça, voilà.
Autour des sujets de santé, voilà, t'as envie de faire passer des messages auprès des gens, mais avec l'humour. Parce que la santé, c'est un sujet grave aujourd'hui.
Alors la rigolothérapie, évidemment, est très efficace et elle permet d'éduquer plus facilement, c'est-à-dire qu'elle fait travailler la mémoire différemment et quand on en a bien rigolé, souvent on retient le message, on retient l'information plus facilement. Et ça, je l'ai constaté. En tant qu'enseignant, puisque je suis encore enseignant, j'ai commencé comme enseignant, et tout ça, c'est lié, hein, je veux dire, l'enseignement, la comédie, la thérapie, pour moi, ce sont des moyens différents de transporter la même énergie, et donc, il n'y a pas de séparation, quoi. Et l'enseignement...
Tu te sens le même, finalement, dans ton cabinet que sur scène ?
Ouais, c'est pareil, oui, j'ai moins de spectateurs.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais moi, je me souviens des professeurs qui m'ont fait rire. On s'en souvient. Ceux qui nous faisaient rire, ils avaient gagné, quoi. On allait à leur cours avec plaisir et on retenait beaucoup plus facilement leur message. Alors que ceux qui étaient sinistres et qui s'ennuyaient, ils nous ennuyaient et on s'ennuyait.
Oui, les frustrés qui nous balançaient des craies à la tête, là.
Donc, j'appelle ça la rigolothérapie et il y en a intérêt à la développer rapidement. Hein. Le spectacle s'est jamais aussi bien porté qu'en temps de guerre. Hein. Pendant l'occupation, les gens avaient besoin de ça, ils sortaient. Bon, aujourd'hui, on a les moyens de diffusion différents et qui nous permettent de rester chez nous, mais aussi on a besoin, je crois, de se regrouper. On a besoin d'être ensemble, hein, plus que jamais. Et c'est ça qu'il faut cultiver et retrouver ce plaisir d'être ensemble.
Ouais. Ensemble autour peut-être de sujets forts. Là, tu le disais, ça parle de santé, mais évidemment, ça ramène au sujet de l'amour, qui est quand même le sujet transversal, qui est partout, qui est la solution, la clé, notre raison d'être, notre raison de vivre. Je cesse de répéter ces mots cette semaine parce qu'il me semble juste tellement important, en fait, qu'aujourd'hui, plus que jamais, on comprenne que voilà, c'est l'amour la clé.
Tout à fait, quand on tombe amoureux, alors j'aime pas le verbe tomber. Je suis tombé, les Québécois disent « je suis tombé en amour ». Je suis pas tombé, je me suis relevé, je me suis élevé en amour. Hein, ouais, c'est ça. Et quand on s'élève en amour, eh bien, on n'est jamais malade, on dort pas, on mange pas, mais on a une énergie, une puissance de vie étonnante. C'est ça qu'il faut cultiver.
Ouais.
Alors l'amour.
Et puis on se maintient en bonne santé aussi, tu le disais.
Totalement, totalement, voilà. Alors la définition de l'amour, voilà, c'est important, c'est de savoir de quoi on parle. Moi, alors, j'adore cette définition d'un peuple amérindien qui utilise le même mot pour les verbes aimer et écouter. Et je trouve que la définition, donc l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, pour moi c'est ça l'amour. Voilà, écoute. Et le dernier livre qui s'intitulait, bon, je suis venu ici pour en parler.
L'attention guérit.
Voilà, l'attention guérit. Ça, c'est totalement défendu, prouvé, mesuré par la science aujourd'hui.
L'idée d'être attentif à soi, l'idée de d'avoir des temps aussi. Hein, je pense que et là en ce moment, peut-être qu'il faudrait qu'on instaure chacun dans notre quotidien. Ce que je te disais quand on s'est retrouvé, tu m'as dit comment vas-tu. Je te dis je médite beaucoup parce qu'en moment plus que jamais j'ai besoin de m'offrir de l'attention. J'ai besoin de sentir ce qui se passe en moi. J'ai besoin d'accueillir en fait.
Et, tout à fait, tout à fait.
C'est primordial.
L'écoute de soi, ça n'a rien d'égoïste. C'est l'écoute de soi, c'est l'écoute du monde puisque soi c'est le monde, de retrouver consciemment cette dimension universelle que nous avons en nous, cette loi scientifique, physique, quantique qu'on appelle l'intrication, la loi d'intrication. Nous, c'est pour ça que nous sommes tous touchés, évidemment, par n'importe quel événement. Et là, dernièrement, la loi d'intrication nous démontre que nous sommes tous reliés à tous les éléments de l'univers. Donc nous sommes l'univers. Et c'est cette conscience qui est importante de développer aujourd'hui et de le vivre en pleine conscience.
Et de l'élever. Alors, en quelques mots, et sans que tu nous en dévoiles trop, est-ce que tu pourrais nous faire un petit pitch sur ce spectacle ?
Alors, le petit pitch, c'est... alors, ça commence mal, puisque le personnage a un cancer. Alors là, on dit « Ah bon, c'est une pièce sur le cancer. »
Oui.
Alors, je réponds « Oui, mais c'est très drôle. Ah bon, c'est très drôle, une pièce sur le cancer. » Mais oui, parce que, justement, on va voir et accompagner, justement, ce personnage dans son parcours avec sa femme. Hein. Ce sont donc un couple. Leur parcours à travers les thérapeutes, les différentes thérapies, toutes les recherches qui vont... subir, je dirais, parce que c'est le parcours de mes patients. Moi, j'ai rien inventé. Hein. Je joue ce que mes patients me racontent, hélas, au quotidien. Et puis, comment ils vont s'en sortir? Comment ils vont se sortir de là? Alors, je donne pas, bien sûr, la fin du spectacle. Vous la découvrirez en venant au petit palais des glaces.
Donc, c'est Albert et Mathilde.
Gamotte.
Voilà, Gamotte. Voilà. Un couple marié depuis 25 ans,
arrive
cette nouvelle. En tout cas, c'est au mari que ça arrive plus particulièrement, mais ça touche le couple.
Tout le monde est touché. Il n'y a pas une famille qui n'est pas touchée par cette maladie,
de
qui
près
est
ou de
fléau
loin.
Moderne, de près ou de loin. On a tous, on entourage quelqu'un qui, hélas, est victime de cette maladie. Et comment on va pouvoir la vivre et s'en sortir?
Ou même limite une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête des gens. Certains se disent, bon, de toute façon, un jour ou l'autre, tu sais, les défaitistes chroniques, un jour ou l'autre, je vais finir par y passer.
Ça, Lao Tzu a dit, méfiez-vous de ce que vous voulez, car vous l'aurez.
C'est clair.
Attention.
C'est clair. Alors qu'il y a tellement de moyens, finalement, déjà peut-être d'accueillir la maladie comme un message, comme une prise
évidemment.
De conscience aussi. Voilà. Je pense que tu abordes peut-être ça aussi dans cette pièce. C'est
l'idée
d'y mettre du sens, quand même, quelque part.
À un moment donné, le personnage dit, mais attends, c'est la maladie, c'est une grande chance. Alors le personnage la regarde comme ça, il est complètement étonné. Il dit, mais c'est pas possible. Mais si, c'est une grande chance. C'est pour vous une chance d'avancer, de vous transformer, d'évoluer. C'est une grande chance. C'est pas facile à recevoir comme message, ça, non plus.
C'est sûr.
Mais c'est pourtant la réalité. Je constate depuis des années que les patients qui ont subi cette épreuve et qui l'ont sublimée, ce sont des gens qui ont transformé totalement leur vie et qui vivent aujourd'hui beaucoup plus sereinement, beaucoup plus heureux qu'avant. Et puis, hélas, alors je suis malheureux pour ceux qui ne comprennent pas ça et qui vivent dans la douleur, dans la souffrance et qui ne comprennent pas, qui peuvent en faire un tremplin pour justement évoluer, avancer. Et l'évolution, c'est bien le chemin de la vie.
Bien sûr.
Il n'y a pas de vie sans évolution. La vie, c'est l'évolution. L'univers nous le démontre tous les jours.
Est-ce que c'est aussi une manière, finalement, à travers l'humour, bah, toi, de régler, entre guillemets, un peu tes comptes avec ce marché business de la santé, de, ou en tout cas, de faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, leur santé, elle rapporte beaucoup d'argent à certains dans ce monde?
Alors, s'ils n'ont pas encore compris, ben oui, bien sûr. Je dis, à un moment donné, le personnage dit, il faut être riche pour être malade. Hein. Et c'est totalement vrai. Donc, moi, je défends, et je le défends au quotidien. Je veux dire, pourquoi cette médecine à deux vitesses? Je veux dire, moi, je pratique des prix qui sont les plus bas dans ma catégorie, parce que je lutte contre la médecine à deux vitesses. Il ne faut pas être riche pour être malade. D'abord, il ne faudrait peut-être pas être malade. Mais on en arrive là, aujourd'hui. On en arrive à un système où, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas être soigné correctement. Et ça, c'est intolérable. C'est l'injustice totale dans une société comme la nôtre, et dans toutes les sociétés. Mais là, d'autant plus qu'on a des moyens technologiques quand même très importants. On a une médecine qui a été une des plus grandes et qui, aujourd'hui, est en train de se dégrader à une vitesse incroyable. Et il faut défendre ça. Et puis, se responsabiliser. C'est aussi ça qui est important à comprendre, c'est d'être responsable par rapport à sa maladie et de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser balloter comme un dossier. Parce que j'entends des médecins dire « Ah oui, dans cet hôpital, j'avais de très bons dossiers ». Mais non, je dis, quand j'ouvre la porte de mon cabinet, ce n'est pas un dossier qui est en face de moi. C'est un être humain, c'est une histoire, c'est toute son histoire. C'est l'histoire de sa vie, de sa famille, c'est l'histoire de ses ancêtres. C'est tout ça qui rentre dans mon cabinet, qu'il va falloir écouter.
C'est un monde.
Pas un dossier, c'est un monde entier, c'est un monde. Évidemment. Toute une reliance, toute une loi d'intrication. Et on ne peut pas continuer à considérer le malade de cette façon-là. C'est pas possible. C'est de spécialiser. Je suis un spécialiste du genou, il ne va pas rentrer un genou. Quoi. Il va rentrer un genou, l'autre, il va rentrer une épaule. Mais on va avoir un spécialiste par doigt de la main.
C'est bizarre. Hein.
Le spécialiste du majeur ou de l'index. Tiens, majeur. Non, attendez, vous êtes trompé de porte. Là, pour
le gastro-entérologue, tu vas juste.
L'auriculaire, c'est la porte d'à côté. Non, c'est pas possible. Quoi. Ouais. On s'est trompé de chemin, totalement trompé de chemin. Et on a quitté, justement, la notion d'amour, évidemment. Mais pas d'amour, je t'adore. Non, d'écoute de l'autre. Voilà.
Mais c'est important que les gens acceptent qu'on ne les réduise plus. Parce que là, comme tu l'expliques, c'est finalement une manière de nous réduire à un symptôme, mais à une partie du corps.
Totalement.
Voilà, mais c'est aux gens de dire non aussi.
Mais voilà, se responsabiliser face à soi-même, face à son corps, face à son existence dans tous les domaines. Et bien sûr, avant tout, la santé, puisque sans la santé, c'est fini. Il n'y a pas à discuter.
C'est sûr.
Donc c'est là qu'il faut aller. Il faut prendre les choses en main. À un moment donné, dans la pièce, il demande ses radios. Le thérapeute, le médecin dit non, je les garde, vos radios. Non, ce sont mes radios. C'est moi, j'ai payé mes radios, c'est mon corps,
c'est clair.
C'est ma structure. Et vous voyez bien qu'il y a plein de gens qui n'ont plus leur radio, n'ont plus leur bruit, rien. Non, on garde votre dossier, surtout, attention. Donc on est totalement soumis, je veux dire, à une médecine qui dévalorise l'individu et qui l'empêche justement d'être responsable face à ce qu'il est.
En plus, les radios, c'est très utile quand on a bloqué une porte blindée pour l'ouvrir.
Sérieux.
Donc il faut avoir au moins une radio chez soi. Ouais. Battez-vous pour récupérer vos radios, c'est important.
Et une carte vitale, parce que ça peut aider aussi à ouvrir la serrure.
Alors la question de la carte vitale, bon, de toute façon, j'imagine que les gens le découvrent dans le spectacle, c'est que tu dois aussi un petit peu peut-être te moquer de cette fameuse carte vitale.
Oui, c'est facile.
C'est peu dire.
C'est facile. La carte vitale, elle est vitale, quoi. C'est ça. Et puis avec maintenant toutes les informations qu'on va trouver
que
dessus,
ça compte,
quoi. Voilà. Alors là, le secret médical, etc., ces secrets qui vont disparaître. Et donc, encore une fois, la personnalité, l'individualité, le respect de l'individu. Mmh. Il faut se battre contre ça.
Bon, en tout cas, un super spectacle qui fait du bien, et plus que jamais, je crois qu'on a besoin de ça, on a besoin de rire.
Les gens sont heureux en sortant, ils nous remercient, les gens, les malades, les cancéreux ou les gens qui ont eu un cancer viennent nous voir, on dit oui, vous avez raison, c'est tout à fait ce que j'ai vécu, et vous avez raison d'en rire. Et on sait que si on dédramatise les choses, évidemment, on les vit mieux. Il y a des études qui ont démontré que, par exemple, face au cancer du sein, les groupes de femmes qui se réunissent aux États-Unis, c'est très, très développé, puisqu'ils font des clubs pour n'importe quoi. Alors, le club du cancer
les
du sein.
Les tétons flingueurs.
Voilà, bravo. Alors, elles se réunissent,
elles font des
spectacles, elles font des chansons sur le cancer. Et alors, elles dédramatisent totalement et elles s'en sortent beaucoup mieux que, hélas, ces femmes qui s'isolent et qui vivent autour de leur maladie. Quoi.
Ah, donc, tu attires dans le public notamment des gens malades qui ont peut-être besoin d'avoir une petite prise de conscience.
Voilà, une ouverture et une autre façon de considérer les choses. Quoi.
Des gens qui s'intéressent à leur santé et même des gens qui n'ont aucun lien avec leur santé. Ça doit être intéressant de créer des déclics.
Justement, c'est ce que je cherche comme témoignage, les gens qui n'ont rien à faire ici, c'est-à-dire dans notre théâtre par rapport à ce sujet, des gens qui ne sont pas branchés, entre guillemets, et comment ils réagissent par rapport à ça. Et puis, en général, ça se passe très bien. Quoi. Mais moi, j'adore toujours avoir les réactions des gens qui ne sont pas dans le groupe, qui ne sont pas informés, comment de l'extérieur ils peuvent capter et apprécier les informations. Ça, c'est intéressant. C'est d'avoir de plus en plus de personnes qui viennent vers l'information, vers la conscience. Et ça marche.
Et qu'il puisse y avoir un bouche à oreille qui se crée.
C'est toujours ça, parce que le spectacle va très mal. Il allait très mal avant les événements. Les théâtres ont vécu l'année la plus noire de leur existence. Et parce que les gens, ils sortent plus, la crise, etc. Enfin, il y a différentes raisons. Et le bouche à oreille, c'est ce qui fait marcher un spectacle. Mmh. L'information, c'est de la surinformation. Il y en a partout. Bon, mais c'est surtout le bouche à oreille. Et le fait que on est justement un côté thérapeutique, la rigolothérapie, c'est-à-dire qu'un spectacle qui fasse du bien. On a besoin de voir des choses qui nous font du bien.
Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, on se sent toujours élevé quand on a vu soit un film qui avait du sens et qui nous a touché quelque part, qui a touché notre âme. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui a parlé à notre âme, ou des spectacles comme ça qui nous élèvent, en fait. On repart, on n'est pas le même. On a quelque chose de plus en nous.
Cette année, j'ai été touché par le film « Sel de la Terre », le film de Wim Wenders. Va le voir si tu ne l'as pas vu. C'est magnifique et c'est un film positif, totalement positif, sur le drame des 40 dernières années. C'est dans l'histoire du photographe brésilien et qui a photographié les secteurs les plus dramatiques de la planète pendant 40 ans. Et le message d'espoir donné à la fin de ce film... je raconte pas tout, mais allez voir le sel de la Terre. On en sort, comme tu le dis, élevé, éveillé, avec une autre dimension optimiste.
Bon, en tout cas, courez également au Petit Palais des Glaces. Donc, on peut trouver des places. J'imagine que vous tapez sur Internet carte vitale et vous trouverez de nombreux sites où on peut acheter des places.
En ce moment, et c'est moins cher par Internet, alors profitez-en. Il y a même des promotions d'une place, plein de promotions. Place pour deux. Ouais. Et si les événements continuent, il y aura bientôt une place pour 10. Donc, mais profitez déjà actuellement d'une place pour deux. C'est la promotion du mois de novembre.
Voilà. Une place pour 10, bon, on va pas attendre jusque-là.
Peut-être que ça va arriver.
Peut-être. Bon, en tout cas, on a rendez-vous sur www.palaisdesglaces.com. Voilà, la pièce carte vitale qui fait du bien. Déjà, Seymour nous fait du bien, là, depuis une petite vingtaine de minutes.
Merci.
Merci d'être là. Merci de garder le sourire et... de continuer à nous faire rire, d'en faire une mission de vie.
Jusqu'au bout, et je voudrais citer la phrase de Solzhenitsyn, l'artiste, en s'enfermant dans sa tour d'ivoire, abandonne le monde aux sots, aux mécréants, sinon aux fous. Donc nous, les artistes, c'est notre mission de rester souriants et présents. Même dans la rue. On ira jouer dans la rue quand on n'aura plus de théâtre, mais on sera là. On sera là.
Bon, en tout cas, nous, on sera là au Petit Palais des Glaces très prochainement pour te voir et t'applaudir. Merci, Seymour.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.